Je voudrais maintenant revenir sur une question très importante qui est l'affaire de la création monétaire et de l'inflation. Ça a été soulevé à plusieurs reprises. Bon. La création monétaire, c'est une création ex nihilo, c'est à partir de rien. Bon, c'est-à-dire que il n'y a pas. Tu as dit. Où,
La
non,
richesse,
non,
produite
attends,
en partie.
laisse-moi terminer, laisse-moi terminer. Pardon. Tu as dit où c'est qu'ils ont pris l'argent, par exemple pour financer les banques, ils l'ont pris nulle part. Ils ont fait un jeu d'écriture, ils ont créé de la monnaie pour financer les banques. Ils ont financé les banques à hauteur de 1 000 milliards en 3 mois, ça n'a créé aucune inflation par ailleurs. Bon. Alors pourquoi cette affaire? Il y a des questions théoriques et il y a des questions de conjoncture. Bon. Les questions théoriques, c'est qu'il n'y a pas de lien automatique entre la création monétaire et l'inflation. Ça, c'est ce que les néoclassiques appellent la théorie quantitative de la monnaie, qui est une théorie néolibérale qui consiste à dire dès qu'il y a création monétaire, il y a inflation. C'est pas vrai. S'il y a création monétaire, tout dépend où va cette création monétaire. Par exemple, on pense que la BCE ne faisait pas de création monétaire, je parle avant la crise. C'est pas vrai du tout. La BCE, elle avait des objectifs de création monétaire qu'elle n'a jamais tenus. Elle avait comme objectif de création monétaire 4,5% par an. Par rapport à ce qu'a dit Damien, je partage évidemment ce qu'il a dit. La BCE est indépendante des pouvoirs politiques et des décisions démocratiques des peuples, pas des marchés, pas des banques. Bon, bon donc ça, il n'y a évidemment pas de désaccord entre nous. Bon. Je reviens sur la création monétaire. Avant la crise, la BCE avait comme objectif de création monétaire de 4,5% par an. Pourquoi 4,5%? C'était 2% pour l'inflation, la norme d'inflation européenne, qui est de 2%, qui était fixée par la BCE 2%, et il disait 2,5%, c'est l'objectif de croissance au niveau européen. Donc 2,5% plus 2%, ça fait 4,5% de création monétaire. En réalité, quand on regarde le bilan de la BCE et l'évolution de la masse monétaire, on voit qu'il y a eu une augmentation qui était, suivant les années, entre 10 et 11%. Où sont allées la différence? Eh bien, ça n'a absolument pas servi à créer de la richesse nouvelle, il y a eu une inflation des biens de consommation, l'inflation restait très bas, ça allait vers les actifs financiers. Alors, il y a eu une bulle financière. Bon, la création monétaire a servi à la bulle financière. Bon. Demain, par exemple, bon, ou pas demain, alors ça s'est passé aux États-Unis en Espagne, bon, la création monétaire a servi à créer une bulle immobilière. Donc tout le problème, c'est de savoir où va la création monétaire. Qu'est-ce qu'elle anticipe comme création de richesse? Bon. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun automatisme entre création monétaire et inflation. Si, par exemple, la création monétaire anticipe des investissements productifs pour la transition écologique, pour la satisfaction des besoins sociaux, etc., etc., il n'y aura aucune inflation, parce qu'elle anticipera simplement une richesse produite. Donc, je veux dire la création monétaire, qui est ex nihilo, je le répète, on prend l'argent nulle part, hein, et elle se fait, et les banques privées font aussi la création monétaire, hein, de la même façon que la Banque Centrale Européenne. Bon. Donc, créer l'inflation, c'est un fantasme. Tout dépend de où cette création monétaire, à quoi cette création monétaire est utilisée, par quels acteurs, pourquoi faire, etc. Ça, c'est une question tout à fait décisive, parce que l'argument de l'inflation, bon, est un argument qu'il faut prendre en compte. Bon, on n'est pas pour une hyperinflation, etc. Encore qu'aujourd'hui, le risque, c'est pas l'inflation, c'est plutôt, on est en période de, on va vers la récession, le risque, c'est le risque de déflation, au contraire, hein. C'est-à-dire la baisse cumulée, hein, des salaires et des prix. Hein, c'est ça le risque, hein, c'est pas le risque d'inflation. Donc, le problème aujourd'hui n'est pas du tout l'inflation, hein, par rapport à ça. Bon. Et d'ailleurs, bon, quand la Banque Centrale Européenne a mis 1 000 milliards pour les banques, elle s'est pas posé la question s'il y avait le moindre risque d'inflation. Hein. Elle n'a pas mis 1 000 milliards pour les États, elle a mis 1 000 milliards pour les banques. Hein, bon. Donc là, c'est l'exemple typique qui montre que veut dire le problème. Hein, n'est pas l'inflation. Alors, la dette, est-ce qu'on a besoin de la dette ou pas? Bon. Moi, je pense qu'il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette. Bon. La dette actuelle, elle est en grande partie légitime. Je dis en grande partie, mais pas totalement. Et je vais expliquer pourquoi. Elle est en grande partie légitime. Pourquoi? Parce qu'elle est le produit, d'abord, des cadeaux fiscaux faits aux entreprises et aux ménages les plus riches. Je ne vais pas vous bassiner de chiffres, hein, mais simplement, il y a un rapport de Gilles Carrez, qui était le rapporteur UMP du budget à l'Assemblée nationale précédente, qui a fait un rapport en 2006, 2010, pardon, sur l'évolution des dépenses publiques, où il avait indiqué que si la fiscalité était restée ce qu'elle était en l'an 2000, la France aurait été en excédent budgétaire en 2006, 2007 et 2008, en excédent budgétaire. Et le déficit budgétaire en 2009, c'est-à-dire en pleine récession, n'aurait été que de 3,3% du PIB au lieu de 7,5% du PIB. Donc, une des raisons essentielles, c'est les cadeaux fiscaux faits aux ménages les plus riches, aux entreprises. Deuxième raison, c'est le fait qu'on a mis la dette publique dans les mains des marchés financiers, bon, qui a permis, bon, à travers ce qu'on a appelé dans toutes les années, à partir des années 80, pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer ici, l'effet boule de neige, c'est-à-dire le fait que les taux d'intérêt auxquels les États empruntés étaient supérieurs à la croissance de l'économie, à la croissance du PIB, ce qui faisait automatiquement augmenter le ratio dette-PIB. C'est-à-dire la dette, le poids de la dette dans la richesse créée augmentait automatiquement à cause, hein, du fait que les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire défalqués de l'inflation, étaient supérieurs au taux de croissance. Et ça a pu se faire que parce que la dette publique a été mise dans les mains des marchés financiers. Depuis quand? C'est compliqué à dire. Bon, en fait, le tournant commence, hein, à partir de 1973, bon, mais ça se fait progressivement. Il y a une volonté de tous les gouvernements européens au milieu des années 70 de créer un grand marché des obligations d'État. Et donc, progressivement, bon, les États n'empruntent plus, bon, aux banques centrales et empruntent aux banques privées et sur les marchés financiers. Et ça, c'est acté par le traité de Maastricht qui interdit, bon, à la BCE de financer les déficits publics. Donc, ça c'est pourquoi. C'est bon, ce qui fait, c'est les raisons pour lesquelles la dette est en partie légitime. Je dis en partie pourquoi? Parce que cette dette, bon, elle a été quand même contractée par disons des gouvernements qui ont été démocratiquement élus et qu'elle a quand même servi, bon, peut-être pas à tout ce qu'on a voulu, mais enfin, elle a servi quand même à financer un certain nombre de choses que tous les Français ont utilisées. Bon. Et secondairement, pas totalement secondairement, en France notamment, elle rentre pour beaucoup, pour l'essentiel, dans les fonds en euros en assurance vie, qui sont possédés par quand même des millions et des millions de gens. Donc dire on va annuler la dette dans ces conditions-là, ça veut dire ruiner en grande partie les petits et moyens épargnants. En tout cas, les moyens épargnants, c'est sûr, les petits, même les petits comme l'assurance vie. Donc, on voit bien qu'il faudra regardez précisément, c'est pour ça qu'on demande un audit de la dette publique, comment la dette publique s'est formée, qui la possède réellement. Enfin, on sait que les assurances en possèdent une partie, 20% en France. Bon, mais on sait pas beaucoup de choses sur la dette publique. Hein. Bon, c'est difficile de savoir précisément les choses, hein, parce que les gouvernements ne pratiquent pas la transparence, bon, sur le sujet, mais en tout cas. Je pense que bon, il y aura probablement une nécessité d'annuler en partie la dette publique. Je ne suis pas sûr, en tout cas, qu'il faudra l'allumer totalement. Bon. En tout cas, ça fait partie du débat, des résultats de l'audit, etc., etc. Bon. De toute façon, je pense qu'on n'a pas besoin, hein, fondamentalement, je veux dire, si on a une réforme fiscale massive qui redonne des marges de manœuvre aux États, qu'on a la possibilité pour la Banque centrale de financer les déficits publics et pour la Banque centrale de racheter, bon, sous contrainte, bon, aux banques privées, les dettes publiques pour sortir le stock de dette actuelle des mains des marchés financiers, on a largement résolu le problème. Bon. Donc, je pense que on a les solutions à peu près, hein, pour savoir quoi faire. J'insiste, bon, contrairement à ce que tu as dit, hein, sur le fait que il peut y avoir de la bonne dette. Bon. Il peut y avoir de la bonne dette parce que, je veux dire, la dette joue un rôle économique et social de lien entre les générations qui est très important. C'est-à-dire que c'est pas simplement une question économique, c'est le fait que c'est économiquement, politiquement et socialement normal que les générations qui utilisent un certain nombre d'infrastructures les financent. Et ils ne peuvent les financer dans le temps qu'à travers la dette. Et de ce point de vue-là, la dette joue un rôle positif. C'est-à-dire, il ne faut pas rentrer dans le discours néolibéral qui consiste à dire la dette c'est mauvais et de diabolisation de la dette. Il y a de la mauvaise dette quand elle est dans les mains des marchés financiers. Il y a de la bonne dette quand elle est contrôlée par les citoyens. Je veux dire qu'elle est financée par la création monétaire fait par la Banque centrale et qu'elle est utilisée à bon escient. Voilà. Donc, et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un discours sur la dette qui se généralise parce qu'il y a une pression du néolibéralisme sur le fait de dire la dette c'est mauvais. Non, la dette en soi c'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est la dette actuelle qui est sous l'emprise des marchés financiers.